Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce jeudi 24 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et d'abord, les grands titres du journal de ce jeudi. L'Australie a fait une concession majeure aux États-Unis dans sa lutte pour obtenir des exemptions tarifaires en levant l'interdiction sur le bœuf américain. La ministre fédérale de l'Emploi, Amanda Rishworth, présentera aujourd'hui un projet de loi visant à protéger le salaire net des travailleurs occasionnels du week-end. Par exemple, de gagner environ $40 de l'heure le week-end. Et puis des responsables politiques démocrates américains ont ordonné au ministère de la Justice de divulguer les dossiers de l'enquête sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Et on passe au journal de ce jeudi. L'Australie a fait une concession majeure aux États-Unis dans sa lutte pour obtenir des exemptions tarifaires en levant l'interdiction sur le bœuf américain. Jusqu'à présent, cette interdiction s'appliquait à la viande bovine provenant de pays dont l'origine ne pouvait être déterminée. Elle a été mise en place il y a des années pour protéger l'industrie locale des épidémies de maladies de la vache folle et de fièvre aphteuse. Mais la ministre australienne de l'Agriculture, Julie Collins, affirme que cette mesure ne constitue pas un compromis en matière de sécurité et que les lois sur la biosécurité seront respectées.
Our biosecurity risk assessment process is very robust and I have faith in the officials in my department to do this appropriately. These are experts in the field. Australia's biosecurity system is world renowned for a reason.
La question a été critiquée par certains groupes d'agriculteurs et le Parti national. La sénatrice du Parti national, Bridget McKenzie, met en garde contre l'affaiblissement des mesures de protection en matière de biosécurité. Elle accuse le Premier ministre de sacrifier l'industrie d'exportation de bœuf au profit des relations entre l'Australie et les États-Unis.
This is as a result of the Prime Minister's inability to repair our relationship with the United States. The Anthony Albanese must not sacrifice the Australian beef industry and our farmers to repair the diplomatic deficiencies of his relationship with the United States.
L'éleveur de moutons et de bovins James Jackson a déclaré sur Channel 7 que cette mesure faciliterait les échanges commerciaux, mais qu'il existe des risques potentiels.
As long as they agree that the traceability standards, agree that beef is not coming through grey channels, if you like. I mean, recently there's a big outbreak of foot and mouth disease in Venezuela. We don't want product coming up through Central America, through Mexico and into the American market, rebranded into Australia that's potentially a foot and mouth risk.
Des représentants russes et ukrainiens se sont rencontrés pour un troisième cycle de négociations de paix en Turquie visant à faciliter un cessez-le-feu et la fin définitive de la guerre en Ukraine. Les parties se sont rencontrées à Istanbul lors d'une réunion qui, selon les médias russes, n'aurait duré qu'une quarantaine de minutes et aurait abouti à un accord sur un échange de prisonniers. Un rapatriement massif a également été négocié, prévoyant la restitution des corps de milliers de soldats de chaque côté. La Russie subit la pression de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre, le président américain Donald Trump menaçant la Russie de sanctions importantes si elle ne signe pas un accord. Le secrétaire ukrainien à la sécurité nationale, Rustem Umerov, dirige la délégation ukrainienne aux négociations avec la Russie. Il exhorte le dirigeant russe Vladimir Poutine à signer un cessez-le-feu avec Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre en face-à-face le mois prochain.
A real ceasefire and end to all strikes on civilian infrastructure. This can be a crucial first step towards lasting peace. We propose to the Russian side to hold such a meeting of leaders until the end of August. By agreeing to this proposal, Russia can clearly demonstrate its constructive approach to everyone around the world, including our partners.
La Russie a répondu en déclarant que la seule circonstance dans laquelle les dirigeants se rencontreraient serait pour signer des documents et non pas pour négocier. Le secrétaire général des Nations Unies a salué la décision de la Cour internationale de justice obligeant les nations à protéger le climat par la loi. Dans une décision historique, la Cour internationale de justice a déterminé que le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le climat peut constituer un acte illicite. S'il ne s'agit pas d'un avis juridiquement contraignant, il pourrait avoir des implications majeures sur le droit international du climat et ouvrir la voie à des poursuites judiciaires entre États membres de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme qu'il s'agit d'une victoire pour la planète et qu'elle démontre le pouvoir des jeunes à faire bouger les choses.
Young Pacific Islanders initiated this call for humanity to the world, and the world must respond. As the ICG has laid out today, the 1.5 degree goal of the Paris Agreement must be the basis of all climate policies under the current climate change treaty regime.
Cette décision intervient après que les États-Unis, principaux émetteurs de gaz à effet de serre, se soient retirés de l'accord de Paris sur le climat sous la présidence de Donald Trump. Aux États-Unis, des responsables politiques du Parti démocrate ont ordonné au ministère de la Justice de divulguer les dossiers de l'enquête sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Par ailleurs, un juge fédéral a rejeté une demande de la Maison-Blanche visant à rendre publics les comptes rendus des enquêtes du Grand Jury sur Epstein menées en 2005 et 2007 en Floride. Ces demandes de documents interviennent alors que les procureurs se préparent à interroger Ghislaine Maxwell en prison dans les prochains jours. Elle est la seule personne vivante à avoir été poursuivie en lien avec le trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. À ce jour, Maxwell n'a pas divulgué d'informations sur les clients présumés d'Epstein, parmi lesquels figuraient plusieurs présidents américains et plusieurs autres milliardaires. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a déclaré aux journalistes qu'il n'existait aucune preuve de lien entre Epstein et les agences de sécurité.
I haven't seen any evidence or information that reflects that. If anything comes before me that changes that in any way, support the president's statement loud and clear. If any credible evidence comes forward, he wants the American people to see it.
En Australie, à nouveau, la ministre fédérale de l'Emploi, Amanda Rishworth, présentera ce jeudi un projet de loi visant à protéger le salaire net des travailleurs occasionnels du week-end. Ce projet de loi inscrirait dans la loi les taux de pénalité et d'heures supplémentaires, ce qui permettrait aux travailleurs de l'hôtellerie, par exemple, de gagner environ 40 dollars de l'heure le week-end. Cette mesure vise à lutter contre les variations des conventions collectives, mais elle ne s'appliquerait pas nécessairement à tous les travailleurs et employeurs qui négocient des accords spécifiques. La protection des taux de pénalité était une promesse du gouvernement fédéral avant les élections de mai. Ce sera l'une des premières mesures législatives du Parti travailliste lors de son second mandat. Les principaux partis ont soutenu une enquête sénatoriale sur la crise de la prolifération d'algues qui représente une menace majeure pour la vie marine australienne. Ce phénomène qui se produit au large des côtes de l'Australie méridionale a vu des corps de poissons, de dauphins et d'autres animaux s'échouer sur les plages ces derniers mois. Cette semaine, le gouvernement d'Australie méridionale a promis 14 millions de dollars pour lutter contre ce problème, s'alignant sur l'engagement pris par le ministre fédéral de l'Environnement après sa visite sur place. La prolifération d'algues est liée au changement climatique, notamment aux crues du Murray River, à la modification des courants et à la hausse de la température de la mer. La prolifération d'algues n'a pas été déclarée catastrophe naturelle, selon la définition du gouvernement, ce qui permettrait de débloquer des fonds supplémentaires. La chef des Verts en Australie a condamné une motion du Sénat visant à sanctionner sa collègue Meryn Farooqi pour une manifestation silencieuse au Parlement mardi dernier. La sénatrice Farooqi a été blâmée pour avoir brandi une pancarte de protestation contre la guerre à Gaza sur laquelle on pouvait lire, je cite, « Gaza est affamé, les mots ne suffiront pas, sanctionner Israël ». La motion n'affectera pas sa capacité à exercer ses fonctions, mais comprend une déclaration indiquant qu'il ne serait pas approprié que la sénatrice représente le Sénat en tant que membre d'une délégation pendant la durée de cette législature. La chef des Verts, Larissa Walters, a qualifié cette motion de honteuse et a critiqué la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong.
What a disgrace. To seek to discipline a member of this chamber for engaging in a peaceful act of protest by holding up a piece of paper. And what a disgrace to say that it was attention seeking by Senator Farooqi for herself rather than the issue of starving women, children and men in Palestine. That's right. That says more about Senator Wong than it does about Senator Farooqi.
Un nouveau rapport révèle que les Australiens des Premières Nations sont deux fois plus susceptibles que les autres Australiens de rencontrer des obstacles pour accéder à leur pension de retraite. Cela inclut des politiques rigides, un service client inaccessible et un manque de responsabilité. Alex Price-Bush est conseiller financier au réseau d'assistance aux consommateurs autochtones. Il a déclaré sur NITV qu'une réforme était urgente.
Time and time again in our casework, we have clients present to access money from whether it's their own super that's been lost or for a family member who's passed away. And the amount of information required and in a lot of circumstances, there's also legal requirements that they need to meet that they simply can't afford even to access smaller amounts of money.
On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 15 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 14. Canberra, 13. Sydney, 17. Brisbane, 21. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximale de 26 degrés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 13h15 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bonjour, votre journal des sports de ce jeudi 24 juillet 2025 déjà. On commence avec du football et l'Espagne rejoint l'Angleterre en finale du championnat d'Europe féminin. La Rora, championne du monde en titre, vise le premier trophée européen de son histoire. Les Anglaises, elles, visent un doublé déjà tenante du titre. Finale dimanche à Bâle. Autre finale féminine, celle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 13e édition. Les Marocaines éliminent le Ghana et se qualifient pour leur deuxième finale de suite. Les Lions de l'Atlas, comme on les surnomme, défieront les Nigérianes samedi pour un premier trophée continental. Un challenge de taille puisque le Nigeria a remporté 9 fois le trophée. Le Maroc étant pays organisateur pourra compter sur son public. Une belle affiche, finale ce week-end donc. Cyclisme à présent bien sûr et la première victoire française d'étape sur le Tour de France 2025. Pas n'importe laquelle, sur le Mont Ventoux. Valentin Paré-Peintre a remporté la 16e étape. Le jeune coureur de 24 ans devient le 5e français vainqueur au sommet du Mont Ventoux. Seul Richard Virenque avait réussi cette performance au 21e siècle. Retour sur cette victoire mythique avec Éric Mamrut pour Radio France Internationale.
Le Français de 24 ans qui a pris la bonne échappée pour s'imposer juste devant l'Irlandais Ben Healy. Pas mal pour un coureur qui découvre le Tour de France cette année. De quoi être assez incrédule à l'arrivée quand Thomas de Saint-Léger lui a tendu son micro. Valentin Paré-Peintre.
C'est difficile à dire, c'est incroyable. Même ce matin, j'y croyais pas, je pensais pas vraiment à l'échapper. Je pensais que Pogacar allait vraiment jouer la victoire. Après, ils ont essayé au début, mais un gros groupe est parti et finalement, c'était pas possible pour eux de contrôler, je pense. Et voilà, c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser encore.
Valentin, est-ce qu'il y a plus beau pour ouvrir son compteur sur le Tour de France qu'une victoire là-haut, au Ventoux?
Peut-être l'Alpe d'Huez? Non, je sais pas. C'est incroyable. Je pense quand on pose la question à des étrangers, quel col tu connais en France, ils disent soit le Ventoux, soit l'Alpe d'Huez, je pense. Donc c'est vraiment incroyable de gagner ici et ouais, je réalise pas.
Valentin Paré-Peintre, 5e français à s'imposer au sommet du Mont Ventoux après Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Jean-François Bernard, Richard Virenque. Le dernier, c'était en 2002.
Tadej Pogacar conserve son maillot jaune et rafle également le maillot à poids, celui de meilleur grimpeur. On écoute sa réaction justement à Tadej Pogacar après la victoire française.
J'aime bien ce gars. Je l'ai croisé et c'était sympa de voir à quel point il était heureux. C'est une montée de légende et Valentin est un pur grimpeur, donc c'est mérité. Moi, bien sûr, je veux toujours gagner et je ne suis pas du genre à laisser passer des occasions, mais encore une fois, il le mérite.
Bon, vous l'entendez, hein, Tadej Pogacar, bon joueur. Le Français Kevin Vauclin perd une place au classement général et devient 6e. Et à noter que victime d'une pneumonie, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, vainqueur de la 2e étape, a été contraint à l'abandon. Hier, mercredi, 17e étape, 160 km de plat entre Bolène et Valence. C'était censé être calme, c'était plat et pourtant il y a eu des dégâts, comme le raconte Cédric De Oliveira, RFI.
Et grosse chute dans le final avec cette chute collective, pardon, qui a perturbé le peloton à 1 km de l'arrivée sous la pluie. Le sprint a donc eu lieu en petit comité. Ils étaient une dizaine et c'est finalement Jonathan Milan qui a eu le dernier mot. Sans le Belge, Tim Merlier ni Binyam Girmay piégé dans cette fameuse chute. L'Italien était plus fort que le Belge Jordi Meus et Tobias Lund Andresen. C'est la deuxième victoire d'étape sur cette grande boucle pour le sprinteur de la Lidl Trek qui a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers.
I'm really happy I'm without...
Je suis vraiment très heureux, je n'ai pas les mots. J'ai survécu avec l'aide de mes équipiers, je dois vraiment le dire parce que sans eux, je ne serais peut-être pas là, je serais hors délai depuis longtemps. Aujourd'hui encore, c'était une étape difficile. On a contrôlé depuis le départ avec l'aide de quelques autres équipes. Cela a été aussi un final difficile à cause de la météo notamment. J'avais un peu peur, je dois l'avouer, mais mes coéquipiers m'ont supporté. C'est vraiment fantastique. C'est une victoire d'équipe. Je les remercie de tout mon cœur et je suis heureux pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas encore fini. Il reste des jours difficiles avec des montées difficiles. On va continuer à se battre pour les sprints intermédiaires et le dernier jour, on verra comment ça va se passer. J'ai repris un peu le large aujourd'hui au classement par points. Je vais encore essayer d'aller en chercher un maximum.
Jonathan Milan, le vainqueur de la 17e étape entre Bolène et Valence, qui a conforté son maillot vert de meilleur sprinter. Pour Binyam Girmay, projeté sur les barrières lors de la chute à 1 km de l'arrivée, il a franchi la ligne le bras en écharpe. Le tour pour lui est décidément plus compliqué que l'an passé où il avait brillé. L'Érythréen ne souffre pas de fractures ni de blessures sévères selon son équipe Intermarché.
Allez, on retrouve notre collègue Christophe Mallet. Christophe, bonjour, vous êtes toujours en France. Encore 4 étapes, Christophe, avant l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Ce jeudi, les coureurs atteignent les Alpes, direction Courchevel. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette 18e étape ?
Ah bah oui, Courchevel, c'est une des étapes qu'on appelle l'étape reine, tout simplement, de ce Tour de France, parce qu'il y a vraiment énormément de montagnes, d'altitude à passer, 5600 mètres d'altitude à franchir sur cette étape. Alors, il y a plusieurs enjeux dans cette étape, notamment une, premièrement, qui intéresse les Français et les Françaises, c'est Lenny Martinez. Lenny Martinez est en bataille ex aequo avec 60 points au maillot à poids. Maillot à poids, donc maillot du meilleur grimpeur, avec Tadej Pogacar. Et ce soir, il y a deux grosses ascensions avant l'arrivée donc de l'étape, notamment le col de la Lauze. Et à ce niveau-là, eh bien, Lenny Martinez pourrait faire la différence. Ce qu'il faut faire pour lui, c'est partir tout de suite, dès le début de l'étape, surprendre Tadej Pogacar et aller prendre les points dans les deux grands cols avant l'arrivée. Et comme ça, Lenny Martinez pourrait avoir une chance de remporter le maillot à poids. Sans ça, ça risque d'être extrêmement compliqué pour le Français de le faire. La première enjeu, donc, à ce niveau-là. Le deuxième enjeu, eh bien, c'est Tadej Pogacar. Tadej Pogacar veut s'offrir une victoire de prestige, en tout cas, sur cette étape. Cette étape franchit le col de la Lauze, un col de la Lauze où Tadej Pogacar a eu plusieurs fois des problèmes dans ce col. Un col qu'il a trouvé compliqué. Il veut retrouver de bonnes jambes, en tout cas sur ce col. Donc Tadej Pogacar est l'énorme favori pour cette étape.
Et en parallèle, il y a le Tour des Femmes, hein, qui va débuter samedi. Christophe, 3e édition moderne après les 6 années de grâce dans les années 80. Plus de 1000 km répartis en 9 étapes, de Vannes à Châtel, et pas de repos prévu pour les coureuses.
Oui, un tour féminin qui, vous pourrez d'ailleurs tout d'abord le suivre à l'antenne d'SBS, à la télévision, des étapes qui se chevauchent les deux premiers jours avec le tour masculin, et puis après place au tour féminin dans son intégralité. Ça va être un beau tour de France féminin avec de belles ambitions australiennes également, et il y a quelques coureuses australiennes qui peuvent vraiment faire la différence, notamment Neve Bradbury qui est dans l'équipe de la vainqueur en titre du tour, donc Nadia Cassia Nyodoma. Et donc cette édition peut être très intéressante. On part de Bretagne, donc à Vannes dans le Morbihan, direction les Alpes avec Châtel. Donc on retraverse une nouvelle fois la France en diagonale. Donc ça peut être vraiment un très beau, très bonne édition, très belle édition de ce Tour de France, parce qu'il y aura tout. Il y a du vent, il y aura des étapes de sprint, et puis bien entendu on finira encore une fois par la montagne. Et on l'a vu l'année dernière quand ça s'est terminé dans la montagne, notamment à l'Alpe d'Huez l'année dernière. Eh bien ça s'est joué à 4 secondes. Donc il y a des revanches à prendre pour l'année irlandaise Vollering. Énormément d'enjeux sur ce Tour de France féminin avec Zwift. Donc Tour de France femme avec Zwift, c'est le nom total de cette épreuve, à voir bien entendu sur SBS. Et on vous fera suivre tout ça en français également sur Radio SBS.
Merci Christophe, à très bientôt.
Merci Marianne, et bonne journée à tous.
Et en tennis, on vous le disait dans le dernier journal des sports, elle est de retour et c'est un retour gagnant. À 45 ans, Venus Williams a joué le tournoi de Washington 16 mois après son dernier jeu. Eh bien, l'aînée des sœurs Williams s'est imposée en 2-7 gagnant 6-3, 6-4 contre sa compatriote Peyton Stearns. Solène Ravanel a suivi le match.
Venus Williams, back.
Pour un retour surprise, il est réussi pour Venus Williams. Alors qu'elle n'a disputé qu'une quinzaine de matchs pour 3 victoires ces 4 dernières années, l'ancienne numéro 1 mondiale a fait ce qu'elle a toujours su faire, frapper fort et servir fort. Et cette fois-ci, ça a marché. Pourtant, le match n'a pas été simple pour l'aînée des sœurs Williams, qui a vécu une entame de match compliquée avant de prendre les commandes de la rencontre.
Vous savez, c'est le début et le premier match est toujours terriblement compliqué. C'est difficile de décrire à quel point c'est difficile de jouer un premier match après une pause si longue.
Et la victoire n'est que plus belle pour Venus Williams, qui se faisait opérer il y a un an de fibromes utérins. Sourire aux lèvres à la fin du match, elle a célébré avec sa pirouette signature sous les applaudissements du public.
Je ne pouvais pas mieux faire. Jouer un beau match et le gagner. En plus, je suis ici avec mes amis, ma famille, les personnes que j'aime et les supporters aussi. C'était juste une nuit fantastique.
La magie continue pour la championne aux 7 titres en Grand Chelem, qui est encore loin de vouloir raccrocher la raquette.
Vénus Williams va tenter une deuxième victoire de suite en affrontant la numéro 5 mondiale, la polonaise Magdalena Fresh. Voilà messieurs, dames, c'était votre journal des sports de ce jeudi 24 juillet. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec les sports, c'est mardi prochain. Au revoir, bonne journée.
h 29 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Comme chaque jeudi, c'est maintenant l'heure du journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Marianne Murat et de Nicolas Perpich.
Nous sommes en ligne avec Nicolas Perpich pour la chronique économie de la semaine. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marianne.
Vous allez nous parler des conclusions assez intéressantes d'une nouvelle étude. Travailler moins, ça pourrait en fait aider à augmenter ou améliorer la productivité.
Oui, tout à fait. Donc vraiment, ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous tous. On aimerait bien tous travailler un peu moins parfois. Et là, vraiment, c'est une question de burn-out. Et donc, ce qui s'est passé, c'était une étude qui a été publiée dans le Nature Human Behavior, où ils ont regardé l'effet des gens qui travaillaient 4 jours par semaine pendant une période de 6 mois. En fait, c'était une assez grande étude, c'était presque 2900 employés à travers 140 organisations en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni. Et ils ont comparé les résultats avec 285 employés dans 12 compagnies qui travaillaient, comme nous tous, 5 jours par semaine. Et en moyenne, les gens y travaillaient à peu près 5 heures de moins par semaine, 5 ou 6 heures. Et ils ont trouvé que, oui, la performance des gens était augmentée, ils travaillaient mieux, il y avait moins de burn-out et ça améliorait aussi la santé physique et aussi mentale des employés. Et c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Il y a déjà pas mal de gens qui travaillent le 9-day fortnight, c'est-à-dire 9 jours tous les 2 semaines. Et une fois tous les 2 semaines, ils ont un jour de congé le vendredi. Donc c'est un peu la même idée. C'est que les gens, ils sont tellement fatigués à la fin de la semaine. L'idée, c'est que travailler un peu moins, mais travailler mieux. Voilà, c'est quelque chose qui était en fait reconnu même par la Productivity Commission ici en Australie. La Productivity Commission, et son job, c'est justement la productivité, a déjà dit que les gens travaillent plus que jamais maintenant, des heures très très longues. Et en fait, ça n'aide pas. La productivité baisse. Donc, juste parce qu'on travaille 10 heures, 12 heures par jour, ce n'est pas nécessairement une bonne chose.
Bah, espérons que nos patrons entendent cette chronique et qu'on puisse tous passer en 4-5e. Mais c'est vrai que c'est, on le voit bien, quand on est fatigué, on n'arrive plus rien à faire. Après, il y a le contre-argument de dire qu'on ne peut pas passer en 4-5e parce qu'il y aurait des abus, des gens qui en profiteraient pour moins travailler.
Oui, il y a ça aussi. Donc ouais, c'est vrai que c'est un équilibre quand même. Ouais.
On va aborder un autre sujet qui est d'une certaine façon aussi lié à la productivité, Nicolas. C'est la discrimination contre les travailleurs âgés.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, bon, et encore une autre étude, mais celle-là, très intéressante, qui a été faite par l'Australian Human Rights Commission et the Australian Human Resources Institute. Ils ont regardé les gens dans les compagnies qui travaillent dans le personnel, par exemple, et il y a maintenant un quart qui, eux, pensent que les gens qui sont âgés entre 51 et 55, c'est des travailleurs âgés. Et avant, il y a juste 2 ans, c'était juste 10% des gens dans le personnel qui pensaient comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que il y a de plus en plus de gens, bien sûr, de cet âge. La population est en train de vieillir. Mais il y a aussi de plus en plus de discrimination contre les employés à cause de leur âge. Des gens qui n'arrivent pas tout simplement à gagner un poste parce qu'ils ont plus de 45 ans, 50 ans, 55 ans. Et ce qu'ils disent là, c'est que, en fait, c'est vraiment assez grave parce que on est dans une économie là où il y a vraiment un manque de compétences. C'est des skills shortages. Donc en fait, on a besoin de ces travailleurs plus âgés. Ils sont essentiels aussi, en particulier si on veut, encore une fois, augmenter ou améliorer la productivité en Australie. On ne peut pas simplement ignorer ces gens qui ont travaillé pendant des très très longtemps et qui ont beaucoup de compétences juste à cause de leur âge. Et malheureusement, il semblerait, selon cette étude, que c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est un vrai défi pour l'économie et pour la productivité ici en Australie.
Et ouais. Donc ces salariés de 50 ans et plus, vous l'avez dit, sont aussi des salariés expérimentés. Et on rappelle aussi que la discrimination envers l'âge, on parle souvent de discrimination envers le sexe, envers la religion, envers la couleur de peau, bah, la discrimination envers l'âge, ça a un nom, hein, ça s'appelle l'ageisme, ageism, et c'est tout aussi grave bien sûr. Merci Nicolas.
Oui, merci beaucoup Marianne.
Heures et bientôt 40 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Radio SBS en français.
Plaisir d'avoir Anne-Lise Hénin, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour à vous, Anne-Lise.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Et on va parler des événements culturels à venir prochainement chez vous, à commencer par l'exposition qui est en cours, Le Monde sans fin, jusqu'au mois d'août.
Oui, tout à fait. C'est une exposition qu'on a inaugurée début juin en l'honneur de la journée internationale de l'environnement. Et on est très heureux de la voir parce que ça suscite aussi de l'intérêt auprès des écoles. On a certains établissements, certaines classes plutôt, qui viennent voir l'exposition et auxquelles on propose des ateliers en parallèle. Donc, c'est inspiré d'une bande dessinée. Donc, on retrouve cet esprit-là dans l'exposition. Voilà, à voir, absolument.
Absolument. Donc, dans les locaux de l'Alliance ?
Oui, tout à fait.
Et puis, le jeudi 24 juillet, c'est le club de lecture.
Oui, on continue donc le petit programme du club de lecture avec le livre de Catherine Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles.
Et donc c'est réservé pour les adultes, c'est ça ?
Oui. C'est un club de lecture à destination des adultes. Ouais. Le livre est disponible à l'Alliance française et il faut l'avoir lu pour venir au club.
Et en français.
Et en français, bien sûr.
Et le vendredi matin, le 25 juillet, vous avez organisé un café croissant ?
Oui, tout à fait. Ça, c'est notre rendez-vous régulier. Le dernier vendredi du mois, des personnes se retrouvent dans un café à côté du marché d'Adélaïde, du marché central, pardon, pour discuter. Donc, c'est tenu par une de nos bénévoles.
Et puis ensuite, le vendredi 25 juillet, c'est à 5h30 de l'après-midi, c'est l'apéro scientifique avec pour thème les enfants et les médias.
Tout à fait. Donc là, c'est l'apéro scientifique est traditionnellement organisé en partenariat avec l'AFRAN, donc l'association des chercheurs franco-australiens. Cette édition-ci, on va s'intéresser donc aux droits des enfants. Elisabeth Hansley est issue donc du milieu juridique. Elle tient un blog d'ailleurs très intéressant sur les droits, l'évolution, les médias. Et tout ça, donc on va s'intéresser à ça, comment le droit arrive à intervenir pour protéger les enfants dans les médias au sens très large.
Et donc vous avez une édition de l'apéro scientifique chaque trimestre chez vous ?
Tout à fait, oui. Exactement.
Et ensuite on enchaîne au mois d'août avec la projection du film « Les algues vertes » de Pierre Jolivet.
Exactement. C'était un petit peu pour faire le lien avec l'exposition qui sera toujours présente. C'est un film qui a eu un petit peu d'actualité en France parce que c'est une histoire vraie qui a été menée par une journaliste. Et l'affaire des algues vertes vient d'être jugée en France. Donc on a un petit peu la fin de l'histoire. C'est aussi pour ça qu'on a invité une chercheuse pour faire une petite introduction et faire le parallèle avec, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais les difficultés qu'il y a avec une algue actuellement en Australie méridionale qui attaque la biodiversité en l'asphyxiant. Donc on le voit sur nos côtes, beaucoup de poissons et d'animaux marins morts. Donc c'est un autre type d'algue, mais on voulait faire un parallèle et donc une introduction par Sophie Leterme, qui est chercheuse et océanographe.
On enchaîne avec le samedi 16 août, très tôt le matin, 9h15, c'est une visite guidée en français pour l'exposition au Art Gallery de South Australia.
Tout à fait. Alors pour celui-ci, je vais continuer à faire de la pub, mais on est déjà complet pour ce tour-là, parce qu'en fait l'idée c'est on va d'abord prendre un petit déj dans un petit déj français dans un café, et ensuite on a un tour d'une exposition, c'est l'exposition temporaire de la galerie sur des Australiens en fait, des Australiennes plutôt surtout, artistes qui étaient en Europe en fait à la fin du 19e début 20e siècle, et donc beaucoup sont restés à Paris ou dans le sud de la France, en Provence. Donc voilà, c'était l'occasion d'avoir une visite guidée en français. On est en train d'essayer d'avoir une deuxième visite guidée pour le faire un petit peu plus tard dans la matinée.
Et donc l'exposition s'appelle Dangerously Modern, c'est ça ?
Oui, exactement.
Et ensuite, on revient sur le Ciné-Club. C'est le partenariat de l'Alliance française d'Adélaïde avec le cinéma Mercury. C'est la projection d'un film classique des années 60.
Exactement. Alors, c'est un petit peu nouveau parce qu'on faisait traditionnellement les ciné-clubs à l'Alliance. Et on s'est rendu compte que nos membres attendaient un petit peu plus peut-être de confort cinématographique, pour le dire de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec le cinéma Mercury qui revendique ce rôle un petit peu de cinémathèque. Donc ce sera gratuit, c'est gratuit pour nos membres et pour les membres du Mercury également. Et donc on présente les félins avec Alain Delon et Jane Fonda. Donc voilà, un film classique dans un vrai cinéma.
Donc un film de René Clément, et je ne savais pas que Jane Fonda parle français.
Eh oui, avec un petit accent, mais très bien.
Absolument. Un dernier message pour l'Alliance française d'Adélaïde.
Eh ben écoutez, on est plutôt actifs cet hiver, donc ne pas hésiter à venir nous rejoindre au chaud, puisque tout est à l'intérieur, comme le programme le veut. Donc voilà, beaucoup beaucoup à faire, que ce soit pour les petits ou pour les grands. L'exposition, elle est là en permanence, donc ne pas hésiter à venir nous voir.
Toutes les informations sur le site de l'Alliance française d'Adélaïde, et vous êtes toujours à Wayville.
Toujours à Wayville, oui.
Merci Annelise, et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news. Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Une entreprise autochtone d'Australie-Occidentale s'appuie sur le savoir-faire traditionnel pour relancer la première exportation australienne, le concombre de mer. Tidal Moon exporte ce mets délicat et convoité vers l'Asie du Sud-Est, créant ainsi des emplois dans une région où les emplois sont rares. Un reportage de SBS News. La baie des requins, ou Kataguru, se trouve à l'extrémité occidentale de l'Australie, une zone classée au patrimoine mondial où la terre rouge rencontre des eaux turquoises regorgeant de vie marine. Vous y trouverez des tortues, des dugongs, des baleines, des dauphins, et disséminé sur les fonds marins, un mets convoité, riche de siècles d'histoire maritime. L'Australie est un important exportateur de concombres de mer. Dès le début du XVIIIe siècle, les pêcheurs originaires de l'île de Sulawesi, aujourd'hui l'Indonésie, naviguaient au sud grâce aux alizés jusqu'à la terre d'Arnhem pour faire du commerce avec les aborigènes.
From what the records show, they used to swap sea cucumbers for iron for their spears. So I thought it was incredible that there was a trade before colonization, and you can actually record it. And why not try recreate it?
C'était Michael Weir, propriétaire traditionnel de Malgana. Il dirige une entreprise autochtone qui fait revivre cette industrie ancestrale. Tidal Moon s'appuie sur le savoir-faire traditionnel pour récolter les concombres de mer de manière durable. Cueillis à la main, un par un, les concombres de mer seront bientôt séchés et transformés dans une toute nouvelle usine d'exportation à Denham, en Australie occidentale. Ils seront ensuite expédiés à un partenaire singapourien pour être exportés vers l'Asie du Sud-Est. Tidal Moon vise également les marchés occidentaux, de nouvelles recherches soulignant les bienfaits potentiels de ces animaux marins pour la santé. L'entreprise espère qu'à mesure que l'entreprise se développera, les opportunités d'emploi dans la région augmenteront également.
The lack of indigenous people in the commercial fishing industry is so, you know, so unfortunate. But if you can create a business that's sustainable, it's culturally directed, you can create jobs, you can then create a middle class within small coastal towns.
Depuis 2017, l'entreprise a formé une douzaine de plongeurs autochtones, dont Alex Dodd, homme de Malgana, et Amangu, âgé de 28 ans, et il est le plongeur principal de l'entreprise.
Tidal Moon, what it's actually doing is making that middle class ground so people can move back home and have jobs, and then, you know, buy a house, settle down with the family and kids up here and move back home. Because a lot of time you get young fellas that grow up here and then they're moving away, going to the mines or going to Perth or something like that, because it's not sustainable for them to work here.
La conservation est également au cœur de l'activité. Kataguru abrite la plus grande réserve d'herbiers marins, des prairies sous-marines de la planète, à la fois source de nourriture pour la vie marine et réservoir de carbone. Plus d'un quart de la surface a été détruite par une vague de chaleur marine en 2011, et la région est encore en phase de récupération tout en étant confrontée à une nouvelle vague de chaleur. En février, les eaux étaient 4 degrés plus chaudes que d'habitude. Tidal Moon mène l'un des plus grands projets de restauration d'herbiers marins au monde. Tout en explorant les fonds marins à la recherche de l'eau, les plongeurs replantent également des réserves d'herbiers.
One of the key things that we're trying to do is keep the carbon captured in the seafloor. So without seagrass restoration, you have these carbon bombs that go off. And there's about 40 million tons of CO2 that are at risk in Shark Bay.
L'équipe a également catalogué plus de 4000 heures de séquences vidéo, une véritable bibliothèque vivante d'observations marines, révélant une relation symbiotique entre les herbiers et les concombres de mer. Jennifer Verdoen, scientifique marine à l'université Murdoch de Perth, convient que cette relation pourrait être mutuellement bénéfique, affirmant que les concombres de mer sont les vers de l'océan.
The function of sea cucumbers overturning the soil and, you know, redistributing nutrients. It's very good to get those nutrients in within the sediment. So it's good for the seagrasses and they grow better. But seagrasses in turn also then protect the sea cucumbers.
Elle dit que les plongeurs de Tidal Moon ont une approche prudente et circulaire de la conservation marine.
We have lost that art of observation as Western scientists very often. So, and that's, I think, where Tidal Moon is really important in getting that back up to a better understanding of a circular ecosystem, if you like.
Ce reportage de Frankie Adkins pour SBS News est soutenu par le Pulitzer Center, produit par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres du journal de ce jeudi 24 juillet. L'Australie a fait une concession majeure aux États-Unis dans sa lutte pour obtenir des exemptions tarifaires en levant l'interdiction sur le bœuf américain. La ministre fédérale de l'Emploi, Amanda Rishworth, présentera aujourd'hui un projet de loi visant à protéger le salaire net des travailleurs occasionnels du week-end, par exemple de gagner environ 40 dollars de l'heure le week-end. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le week-end, samedi et dimanche à 13h. Bel après-midi. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.